Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Nous sommes le jeudi 14 janvier, on est
février,
avec vous.
Février,
oui. Mais c'est de la faute de Gilles sur son conducteur, il y a marqué 14 janvier, voilà. Et moi je lis bêtement ce qui est écrit sur mon papier, tout ce qu'on m'écrit. J'ai regardé la date et pourtant le 14 février, tout le monde en parle aujourd'hui. Allez, avec vous jusqu'à midi, on va recevoir Jean-Luc Reichmann pour parler du retour de Léo Mattei. C'est la 6e saison, ça cartonne sur TF1, on va en reparler avec lui. 14 février, l'amour avec Marié au premier regard. On va avoir une candidate de cette émission d'M6 qui a trouvé l'amour grâce à l'émission. Alors pas exactement comme elle l'entendait, mais en tout cas elle a trouvé l'amour. On aurait la psychologue qui s'occupe du casting, enfin d'établir les différents critères. Voilà. Et puis à 11h, l'actualité, c'est Alain Juppé qui va au Conseil constitutionnel. Il quitte la ville de Bordeaux. Faut-il arrêter les manifs? C'est un sondage, en tout cas, qui pour la première fois dit que la majorité de Français souhaitent que les manifestations du samedi s'arrêtent. Évidemment, je parlais des manifs de gilets jaunes. On parlera évidemment de ce qui fait beaucoup réagir. Parent 1, parent 2 à la place de père ou mère. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. On sera avec vous jusqu'à midi sur Sud Radio. Et on va commencer avec les audiences de Rémi.
Sud Radio, le 10h midi. Les médias, découvrons les audiences.
Alors, on commence avec un carton peut-être,
oui, un carton,
comme tous les jours.
Tout à fait, c'est TF1 qui est en tête avec Esprit Criminel. Ah. 4 285 000 téléspectateurs et 18,9% de part de marché pour la série policière américaine. 70 000 téléspectateurs de plus que la semaine dernière. Puis très bon score aussi quand même pour Top Chef, M6, 2 858 000 téléspectateurs, 15,1% de part de marché, donc bonne part d'audience. 150 000 de moins que la semaine dernière, mais M6 est deuxième chaîne généraliste hier. C'est toujours un bon score, en fait, pour l'émission qu'a vu hier le départ de la candidate. Candidate Marie-Victorine.
Marie-Victorine. Ouais. Ah bon, très bien. Le Gadin.
Alors, le Gadin, c'est pour France 3 hier. Hein. Seulement 1 148 000 téléspectateurs, 6,4% de part de marché pour les victoires de la musique classique. C'est 120 000 téléspectateurs de moins que la semaine dernière. C'était un match de Coupe de France entre Rennes et Lille. Mais c'est 140 000 téléspectateurs de moins par rapport à l'an dernier, les victoires de la musique. Donc, c'était diffusé l'an dernier un vendredi soir. Donc, mercredi soir, vendredi soir. Ça marche pas mieux.
En mettant Laïla Kadour à la présentation, ils avaient tout mis pour gagner.
Elle y était déjà l'année dernière. Ça baisse encore.
Vous ne l'aimez pas. Ça avait mieux marché non, quand il y avait eu, comment il s'appelle, le fils Bedos. Vous vous souvenez? Comment il s'appelle?
Nicolas Bedos,
il avait présenté une année, me semble-t-il, ou alors je dis une bêtise, je ne sais plus.
C'est les Molières, mais...
Peut-être.
Il a fait les Molières, est-ce qu'il a fait la victoire de la musique classique?
Je ne sais pas, en tout cas, mais c'est quand même le rôle du service public que de faire ça. Voilà.
Ouais, alors je voudrais dire un petit score aussi quand même, alors c'est pas un Gadin, mais pour le téléfilm Ma mère, le crabe et moi sur France 2,
dommage.
Qu'on aime beaucoup, 2 128 000 téléspectateurs, juste en dessous des 10% de part de marché, 9,9. Bon, c'est 1 200 000 de moins que pour la série Philharmonia la semaine dernière. Ouais. Puis même la soirée continue, 1 097 000 téléspectateurs pour le débat. En fait, je pense que le débat, le cancer du sein, peut-être ça effraie le public. Ouais. Par exemple, si je compare à l'année dernière, une soirée continue sur l'alcoolisme, ça avait fait 1 200 000 téléspectateurs de plus. Ouais. Donc,
c'est très très difficile. Oui, c'est ce qu'on disait.
Bon, enfin,
hier
quand même
avec
plus de 2 millions de téléspectateurs,
mais
quand
ça
même.
Reste,
vous voyez,
bah,
ça,
bravo,
ça reste,
quand même.
Quand même voilà.
Allez, et la surprise.
La surprise, c'est Touche pas à mon poste sur C8 en baisse régulière depuis le début de la semaine. Hier seulement 1 184 000 téléspectateurs. Cyril Hanouna recevait Patrick Hernandez et Sabrina de la tournée.
Oui, c'était des années Star 80.
Bon, l'audience. Donc, si on prend l'ensemble de la tranche, c'est tout juste au-dessus du million de téléspectateurs, vous savez, de si on prend l'ensemble, depuis 19h40 jusqu'à 21h10. En tête des talk shows d'accès hier quotidien sur TMC, 1 472 000 téléspectateurs. Yann Barthès recevait Thomas Nguijol et Carole Rocher. Il a baissé lui aussi par rapport à la veille, mais il est largement en tête. Et puis l'audience est stable pour 7 à vous sur France 5, 1 301 000 téléspectateurs. Anne-Elisabeth Lemoine qui recevait plusieurs députés de La République En Marche. Puis je signale quand même un bon score sur C8 parce que juste après, la télé de Gérard, 861 000 téléspectateurs.
Bravo,
c'est en fait 400 000 de plus que Strike la semaine précédente.
C'était une rediff en plus, je crois.
Oui,
absolument.
C'était une rediff.
861 000 téléspectateurs, vous voyez, juste derrière, presque égalité avec Burger Quiz.
On a toujours plaisir à voir Laurent Gérard. Voilà, ça marche toujours, Laurent Gérard. Allez, on a en ligne avec nous Alice qui nous appelle de Biarritz. Bonjour Alice.
Bonjour à tous.
Bonjour. Qu'est-ce que vous avez regardé, vous, hier?
Alors moi, j'ai regardé de Max à Maxine sur Sister.
Donc une mini-série
britannique en 3 épisodes, dans laquelle plusieurs sujets sont évoqués, notamment la question du genre et la rupture familiale. Donc c'est l'histoire de Max, un petit garçon de 11 ans, donc un jeune collégien qui s'habille, se comporte comme une fille à la maison. Les parents sont séparés, mais très présents pour leur enfant. Des parents en détresse devant ce lourd sujet de la transidentité de leur fils. Donc Max veut être normal, mais il veut pouvoir se sentir à sa place aussi. Donc on le voit donc évoluer dans les années collège, où l'humiliation et la moquerie des autres enfants est la pire, je crois. Le soutien de sa sœur aînée, qui est énorme, qui l'aide à s'affirmer en tant que Maxine. Donc il va devenir Maxine.
C'est mieux que 30 secondes pour convaincre, hein, quand on vous écoute. Vous avez en tout cas aimé vous êtes fan de cette série, en tout cas.
Voilà, la culpabilité d'une mère qui se pose la question de savoir si c'est de sa faute, un père aimant, une famille en crise. Donc je pense que c'est un sujet qui est très très intéressant.
Ça ressemble pas mal au film Rose de Michel Larocque. Je sais pas si ce film vous parle, qui raconte un peu la même histoire.
Pas du tout non plus. Ça a
mais
marché.
J'ai été très touchée par la douleur, le mal-être et le courage de ce jeune garçon en pré-puberté. La question du genre, c'est un sujet très délicat encore dans notre société aujourd'hui.
C'est vrai. Et les Britanniques, en général, le font très bien.
Donc la soirée, c'est 166 000 téléspectateurs. Mais en fait, ils ont à peu près ces 3 épisodes à la suite qui ont gardé à peu près le même nombre de téléspectateurs. Et puis, c'était suivi d'un documentaire encore sur la même thématique, être fille ou garçon de dilemme. Donc, c'était une soirée complète. Était diffusée jusqu'au delà de minuit et qui a gardé plus de 100 000 téléspectateurs même à cette heure-là. Il y avait un public, en tout cas.
Il y a même un musical à Londres qui s'appelle Tout le monde aime Jamie sur ce thème-là. Vous pouvez aller le voir.
Alors, on a Florence. Merci en tout cas, Alice. On a Florence en ligne. Bonjour, Florence.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous nous appelez d'où ?
Alors, je vous appelle de l'Aude, à Limoux.
D'accord. Très bien. Vous êtes une fidèle de Sud Radio ?
Oui.
Alors, vous avez regardé quoi, vous, hier ?
Alors moi j'ai regardé la chaîne 19, Investigation en fait, sur le périple dans l'océan Indien.
Ça racontait quoi ? C'était un documentaire ?
Un documentaire sur un peu toutes les îles paradisiaques. Du coup ça parlait un peu de l'Eldorado pour les chefs d'entreprise que représentent ces îles. Parce que c'est des fiscalités clémentes, pas de taxes foncières, pas de taxes d'habitation. C'est un bon moyen pour d'échapper au fisc.
Et pourquoi Fonceau par rapport aux autres chaînes ? Parce qu'il y avait plein de propositions hier soir. Qu'est-ce qui vous a fait d'aller sur Fonceau ?
Ben justement, sur ce périple dans l'océan Indien, là, j'avais pas trouvé d'autres choses intéressantes qui m'intéressaient.
D'accord.
À moi,
Donc en tout cas, ça vous a plu et c'est vrai que c'est bien d'aller regarder sur d'autres chaînes que les grandes chaînes classiques.
Ne me demandez pas si ça a marché, Valérie, parce que François est sorti de Médiamétrie il y a déjà un an.
C'est pas une raison.
Donc il y a du monde qui regarde, vous voyez.
Gilles.
Un
petit jingle, on va faire le zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Hier, dans C'est à vous sur France 5, il recevait Cécile Andrzejewski, qui est journaliste et qui sort un livre terrifiant sur les violences sexuelles à l'hôpital. Et durant l'émission, on a entendu ce message d'une infirmière glaçant.
Je bloque opératoire, on est toutes passées par là. Vous demandez comment on s'habille. Ils me disent il faut se mettre complètement à poil parce que sinon il y a des bactéries dans les sous-vêtements, donc il ne faut pas en mettre. C'est pas qu'on est naïve ou bête, c'est qu'effectivement on y croit à leur truc et qu'on arrive complètement à poil sous une blouse. Et après, vous arrivez au bloc opératoire et tout le monde est là, haha, ou alors on vous arrache votre blouse. Moi, on m'a déjà arraché ma blouse,
25% des agressions se passeraient au bloc opératoire. Un interne s'est vu demander en pleine intervention de faire un striptease, il s'est exécuté. Donc vous avez voulu assister à une opération, être au bloc.
J'ai voulu voir ce que c'était, puisqu'on me parlait du bloc et tout le monde me disait le bloc, vous savez bien comment c'est. Et en fait, non, je ne savais pas.
Ça paraît quand même incroyable.
C'était un espace fermé, un espace clos, où on reste de longues heures et où, en plus, là, vraiment, le pouvoir est vraiment très concentré aux mains des hommes et où les infirmières autour sont majoritairement des femmes. Donc, c'est un lieu vraiment de domination masculine très, très forte. C'est aussi une spécialité.
Et Valérie, dans cette même émission qui était. Assez étonnant de ce qu'on racontait, de ce qui se passait dans un bloc opératoire. Écoutez, je ne sais pas si le message suivant n'est pas encore plus glaçant. C'est le témoignage d'un médecin pour qui la main au cul, Bon, c'est la tradition.
Franchement, oui, des fois on met la main au cul comme ça. Oui, si c'est par exemple une jeune médecin qui débarque, l'expression un gros cul, on peut lui dire quoi. On peut s'en servir pour poser nos pannes de bière, par exemple. Voilà, c'est tous les jours. Tous les jours, à tout moment de la journée ou de la nuit. Et oui, c'est tout le temps. Ça, non, ça, pour moi, c'est pas du harcèlement. Ça fait rire tout le monde, ça détend tout le monde. C'est un peu notre dérision et notre échappatoire aussi. Effectivement, si on prend la loi, mettre la main au cul d'une collègue, oui, elle pourrait porter plainte contre celui qui lui a fait.
C'est une enquête, d'un grand hôpital. Hein.
Ouais, ouais, c'est une enquête. Le Parisien, et aujourd'hui en France, avait fait ça une également sur le même sujet, à partir du même livre. Ouais. Et effectivement, il y a des témoignages hallucinants. Ouais, ouais. Hallucinants.
Dans Quotidien, on parlait aussi d'harcèlement sexuel avec le procès de Denis Baupin. Hélène Bibost, une des victimes, évoque aussi la responsabilité des hommes dans cette affaire.
On a vu justement, je crois, Stéphane Sidbon, le collaborateur de Cécile Duflot, pleurer, fond dans larmes. C'était un des moments les plus forts du procès.
Pierre Cerne a pleuré également. Alexis Brault était en larmes en sortant aussi. Et c'est dans les choses historiques de la semaine, une des choses les plus fortes, c'est sans doute ça. Ça, c'est ce qui change en vrai. Parce que les femmes se retrouvent sur les plans, sur les bancs de la diffamation après avoir poursuivi un homme puissant pour ce type de violence. Ça n'a rien d'original, en fait. Vraiment rien d'original. Par contre, ce qui est original, c'est quand les hommes disent, prennent leur part et disent, on y était pour quelque chose, on a vu, on savait. Et on les a pas aidés. On leur a pas dit d'aller porter plainte et on...
Alors, voilà, allez, un peu d'amour, c'est la Saint-Valentin. Alors, vous savez qu'on vit de plus en plus vieux. Et ben, vous allez voir, c'était chez Faustine Bollard sur France 2 à 13h45. Nos mamies, elles ont bien changé quand même.
Qu'est-ce que vous osez faire aujourd'hui que vous n'auriez pas fait à l'époque ?
L'amour à trois,
un classique. Ah ouais.
Moi, je vous le dis franchement, je vais avoir 70 ans au mois de mai, je veux m'envoyer en l'air. Pousser des hurlements de plaisir.
Oui, mais qu'est-ce qui se faisait ? Notre réalisateur a censuré, il a été choqué, voilà.
Il a censuré mamie. Voilà. Donc voilà, en tout cas, à plus de 70 ans, elle voulait s'envoyer en l'air, s'éclater, s'amuser. C'était un témoignage dans l'émission de Faustine Bollard.
À suivre.
Ça commence aujourd'hui. Eh ben, on est mercredi, et mercredi, je vous l'ai promis, chaque semaine, Cyril Hanouna fait sa chanson.
On est jeudi, mais c'est le zapping
C'est le zapping d'hier, d'Olivier Schramek.
Le zapping de mercredi.
Vous savez, le président du CSA qui a fini son mandat, et puis qui avait fait condamner à plusieurs reprises Cyril Hanouna, ça lui a coûté plusieurs millions. Et donc, depuis qu'il est parti, Cyril Hanouna n'arrête pas chanter son bonheur.
C'est la fête.
C'est la fête.
Je me présente, je m'appelle Schramek. Avec un gros chèque de baba. Maintenant que j'ai de l'argent, presque autant que les Kardashians. Avec tout ça, plus besoin que je bosse à plein temps. J'ai acheté un salon marocain. Je mange du caviar au petit-déj le matin.
Voilà. Je ferai une compile peut-être.
Il va la faire lui-même. Je pense qu'il... En tout cas, c'est assez drôle. Je ne sais pas qui lui écrit les textes, mais moi, ça m'a fait beaucoup rire.
Mais vendredi, je verrai, je vous ferai peut-être une compile de toutes les chansons.
Petite compile des chansons consacrées à Olivier Schramek, qui a quitté le CSA.
Il y en a encore qui vont venir.
Oui, il y en a encore. Bah oui, puisqu'il veut faire un concert à l'Olympia.
Donc voilà, tous les mercredis, il avait promis. La semaine dernière,
allez,
c'était vendredi.
On va recevoir Jean-Luc Reichmann dans un instant, ou plutôt Léo Mattei. 0826-300-300. Vous pouvez nous appeler si vous voulez converser, dialoguer, échanger. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Léo Mattei. Bonjour Jean-Luc Reichmann. Mais très bien, on vous avait reçu au moment de Noël parce que vous êtes animateur aujourd'hui. C'est le comédien que nous recevons pour la sixième saison de Léo Mattei.
Je suis très heureux d'être à Sud Radio.
Eh bien, nous, on est ravis de vous avoir. Vous voulez pas rester plus longtemps avec nous ?
Écoutez, avec bonheur, non, voilà, je me sens...
Mais vous aimez bien la radio.
Ouais, c'est une maladie, la radio. Ouais. C'est un truc de dingue, mais c'est un peu chronophage parce que c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, comme la télé. Bah, à part que vous êtes en direct.
Nous, on est en direct, donc c'est un petit peu différent. Mais chronophage, vous, le temps, vous ne comptez pas vraiment, parce que vous êtes en tournée internationale avec la pièce Nuit d'ivresse. C'est on en avait parlé, donc on pourra redonner les dates et les différentes villes. Vous êtes à la télévision, vous n'arrêtez jamais.
Bah, disons que, vous savez, on ne sent pas le temps passer, puisque j'ai la chance vraiment de faire des choses qui me plaisent.
Et de vous amuser.
Et surtout de livrer des combats. Là, ce soir, c'est Léo Mattei, Brigade des mineurs. C'est bien sûr pour accompagner au plus près nos enfants par rapport à tous ces fléaux, par rapport à tous ces harcèlements divers et variés.
Vous dites livrer un combat. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, pour vous, Léo Mattei, quand vous avez pensé cette série, c'était de transmettre de... Il y avait un message. Il y a un message.
Valérie, vous savez, moi, à l'âge de 14 ans, j'ai un prof de français qui m'a dit la tâche au tableau. Quand on vous dit ça devant 30 élèves et que vous dites mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, ça m'a déglingué une première fois, puisque je l'avais vécu, bien sûr, dans les cours de récréation, cette tâche sur le nez. Et quand on est, comme moi, à la tête d'une fratrie recomposée de 6 enfants, puisque c'est une famille recomposée, on se doit aussi d'accompagner au mieux nos enfants. Alors ce soir, effectivement, sur la Brigade des mineurs, c'est dur, c'est du harcèlement. Il y a tout type de harcèlement en ce moment, qu'il soit scolaire ou qu'il soit, bien sûr, sur nos écrans et sur les réseaux. Donc, en même temps, ce sont des combats, oui, mais il faut que notre image médiatique aussi serve à ça.
Rémi, Léo Mattei, sixième saison, c'est à chaque fois un carton.
Bah oui, c'est à chaque fois un carton. Disons que l'année dernière, par exemple, le premier épisode avait réuni 5 800 000 téléspectateurs, presque 25% de part de marché. Le second, 5,4 millions, donc pratiquement la même chose, presque 28%. Donc ce sont des scores aujourd'hui. Les conditions d'audience sont de plus en plus difficiles à la télévision. Donc des fictions qui dépassent les 5 millions, ça commence à se compter sur les doigts pratiquement d'une seule main.
Ouais.
Donc voilà, votre série... cartonne toujours avec.
Je pense que vous savez que
excusez-moi, avec des thématiques sans doute assez qui sont très prenantes pour les téléspectateurs.
Mais voilà, vous quand vous faites de la radio, vous la faites bien sûr pour les auditeurs. Nous, on essaye de faire de la télé et de la radio pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Et je pense que toutes les histoires que l'on traite dans Léo Mattei peuvent nous arriver à vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez, se dire voilà, le harcèlement, ça peut toucher nous, nos enfants, nos petits enfants. Nos arrière-petits-enfants, et c'est ce soir ce que nous traitons en premier. Ouais. Mais toutes les histoires, dans la deuxième partie de soirée, vous verrez.
C'est sur la danse.
C'est sur la danse. Il y a des parents qui poussent leurs enfants parce qu'eux-mêmes auraient voulu, entre guillemets, être un artiste, genre là, c'est sur la danse. Et en plus, on a tourné à l'Opéra de Marseille, vous verrez, c'est des décors magnifiques. Mais ça peut nous arriver, et je crois que c'est pour ça que l'audience était au rendez-vous.
La première, c'est une école hôtelière, c'est également extrêmement intéressant. Avec Michel Sarran, avec des conditions assez où on voit les conditions quand même d'apprentis cuisiniers qui sont pas toujours faciles non plus.
C'est touchy parce qu'on met le doigt là où ça fait mal un peu quelque part. Donc c'est vrai que le
c'est surprenant, je dis rien, mais le dénouement est surprenant.
Oh, mais bien sûr, non mais Michel Sarran, donc c'est à se passer dans une école hôtelière. C'est un ami toulousain, je tiens à le préciser. Et j'ai dit mais qui sera plus vrai que toi? Il me dit mais moi j'ai jamais fait ça. C'est sa première et vous allez voir.
Il a dit que c'était plus dur que Top Chef, parce que il a dit dans une interview.
Ouais, mais...
C'est un autre exercice.
C'est un autre exercice, mais qu'est-ce qu'il le fait bien.
Le début de l'épisode, vous verrez ce soir, ressemble à Top Chef, d'ailleurs.
Oui, absolument.
Quand il dit, vous avez que 3 minutes, attention.
Ouais, exactement.
Le début ressemble juste avant le générique.
Mais c'est pour ça qu'on essaye d'être au plus proche de la vérité, y compris dans nos invités. On a Rebecca Hampton,
on a
Véronique Jeannot.
Vous avez plein d'invités cette année. Cyril Heldin, Patrick Bosseau, qu'on voit dans le premier épisode.
C'est très prenant, puisque vous parlez de Patrick Bosseau, parce que c'est un rôle à contre-emploi. Total.
Parce qu'il est plutôt dans des rôles de comique, là.
Et là, c'est le papa d'une enfant qui est harcelée. Et après, comme vous le savez, c'est très très compliqué. Mais psychologiquement, c'est pour ça qu'il faut regarder un petit peu tous ces épisodes en famille, pour qu'on puisse garder le lien avec nos enfants tant qu'on en parle. Je suis persuadé, eh bien, c'est bon signe.
Allez, on se retrouve dans un instant avec Léo Mattei et Jean-Luc Reichmann qui est avec nous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio.
Valérie, je vous aime.
Oui, merci Jean-Luc.
C'est la Saint-Valentin, je vous aime, tant pis pour votre mari.
Jean-Luc Reichmann, et bonjour à votre compagne.
Bien sûr.
Jean-Luc Reichmann, Léo Mattei est avec nous. Sixième saison qui démarre ce soir sur TF1 à 21h. On va écouter la bande-annonce.
Oh, Docteur Commandant,
j'attends que je vous là.
Si vous saviez comment vous m'avez manqué. Du coup, j'ai demandé ma mutation à Marseille.
Qu'est-ce que tu racontes?
Je viens travailler avec vous.
On a déjà essayé de tuer votre gamin, vous.
Croyez-moi, je sais ce que c'est qu'on s'en prenne à votre enfant. On va tout faire pour arrêter le coupable. Oh, on va vous le suicider.
C'est forcément passé quelque chose au lycée.
Harcèlement?
On néglige aucune piste.
J'ai jamais touché à Aurore, jamais. Il faut qu'on découvre qui a fait ça, non? Et notre boulot, c'est de protéger les enfants. J'aimerais bien qu'il me laisse le temps d'apprendre à vivre.
Toi, tu devrais prendre le temps d'apprendre à le connaître. C'est ton père.
Léo Mattei, nouvelle saison inédite, jeudi à 21h.
Alors évidemment, Valérie, s'il y a une enquête au cours de 52 minutes, il y a surtout aussi le rapport entre Mattei et sa fille, qui est une autre intrigue et important. Moi, je voulais savoir, est-ce que quand vous jouez ces scènes-là ou quand vous contribuez à écrire Léo Mattei, vous pensez à vos enfants?
Bien
est-ce
évidemment.
Que vous demandez si vous êtes un bon père?
Je me pose pas cette question, c'est pas à moi d'y répondre, c'est à mes enfants, mais mon but, effectivement, c'est de les accompagner le mieux possible par l'intermédiaire de ces messages. En revanche, pour répondre à votre question, évidemment, je joue avec Myra Schmidt, qui pourrait être ma fille. Elle a 18 ans, la mienne en a 20, et quand je lui dis « ma chérie », je la regarde droit dans les yeux et je vois la mienne. Ouais. Ça, effectivement. Et la plus belle des récompenses, c'est que lorsque j'ai dit à ma fille, dis-moi, qu'est-ce que tu penses des épisodes? Et il y a eu un petit blanc, et elle m'a dit, mais c'est toi, papa.
Ah oui.
Et d'un seul coup, le père que je suis, comme je vous parle là maintenant, a été vraiment ému et touché parce qu'elle n'a jamais regardé la télé le midi, puisque déjà, c'est pas dans son ADN, et puis c'est pas papa, et puis c'est la télé, et puis c'est tout ça, ce que ça peut représenter, le côté chronophage de l'image. Mais en revanche, quand elle m'a dit ça, les bras m'en sont tombés. Elle ne regarde pas le midi, en plus elle est à l'école, enfin bon, etc., etc. Il y a pas mal de paramètres. Mais là, sur Mattei, ils accrochent. Donc ça veut dire que quelque part, il faut intéresser nos enfants. On est très mauvais dans l'éducation avec nos enfants. En revanche, avec nos filleuls, avec nos nièces et nos neveux, on est super bons.
Même manière,
Et puis Tati Valérie, je suis sûr qu'elle est super heureuse d'être avec ses nièces et ses neveux. En revanche, avec nos enfants, c'est hyper touchy quand même.
C'est compliqué. Comment vous êtes passé de animateur à comédien? À quel moment ça s'est fait le déclic? Enfin, il y a toujours eu ça en vous, en germe, mais le moment où vous vous êtes dit, tiens, je vais écrire une série et je vais aller la proposer à TF1.
Alors déjà, j'étais comédien avant d'être animateur. J'étais sur scène, bien sûr, à l'école, un petit peu partout. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais il faut que je revienne à mes premières amours. Et qui plus est, tout comme Nuit d'ivresse, on en a parlé ensemble ici, si ça peut faire passer des messages, comme je vous le disais, ça ne peut être que positif. Le message contre l'homophobie sur scène, sur Nuit d'ivresse. Les messages pour les handicapés, puisque ma petite sœur est sourde, profonde, pour que toutes les émissions soient sous-titrées de divertissement. À l'époque, il y avait
Antioque. C'est vous qui avez demandé à ce que les amours soient en sous-titrés.
Sous-titrés, et que toutes mes émissions que je présente soient sous-titrées de divertissement, de jeu. Et à aujourd'hui, j'ai des personnes âgées qui m'écrivent et qui me remercient quelque part parce qu'il y a des déficients auditifs, nos parents, nos grands-parents, etc., etc. Donc, tout simplement, ce sont ces combats. Et quand on a créé Léo Mattei, c'était le combat d'amener nos enfants à ne pas avoir ce break de lien avec... voilà, je suis dans ma chambre, je regarde mes écrans, je m'informe sur la vie, la planète entière est à moi, je surfe sur le web, et il n'y a plus de contact. Et donc si on arrêtait le téléphone pendant qu'on déjeunait, complètement, voilà, c'est un petit
vous
peu...
Vous ne faites pas ça.
Je le fais, j'essaye de le faire. En vacances, je le fais à tous les coups, en revanche.
C'est vrai.
Mais à tous les coups, c'est-à-dire qu'il y a une petite panière à la cuisine, et tout le monde laisse son téléphone, et on parle, on écoute de la musique pendant le déjeuner. Ça, pendant les vacances, on le fait.
Rémi ?
Et la place, donc, pardon, vous en parliez, la place du handicap dans les fictions françaises, il y a eu pas mal de discussions là-dessus. Le CSA a essayé à pousser un peu. Est-ce que vous pensez que c'est bien intégré ou c'est encore un peu sous-traité ?
Je pense tout simplement que chacun, si chacun peut mettre une petite pierre à l'édifice, bien évidemment, il faut accompagner. Je suis touché évidemment de plein fouet puisque ma petite sœur est sourde. Donc voilà, moi je me suis battu à ma manière, justement pour l'accessibilité à un maximum de personnes aux émissions de divertissement. Quand on voit que, par exemple, The Voice est sous-titré, je trouve que c'est génial. Au début, il y avait Antiope. C'était effectivement, on avait cette petite boîte qui sous-titrait uniquement les informations et c'était tout. C'était les infos. Et aujourd'hui, c'est l'accessibilité. Ouais. Donc chacun, pour répondre à votre question, Eric, c'est chacun doit apporter sa petite pierre à l'édifice.
Et audio description aussi pour les personnes déficientes visuelles.
Bien sûr, les malvoyants, bien sûr.
De ce côté-là, ça a quand même énormément progressé.
Bien, c'est bien.
Cédric nous dit, avez-vous une famille entre les 12 coups de midi, votre tournée, la série Mattei, etc.
Je vous assure que j'ai une bonne famille. Là, par exemple, je vais jouer à Genève là, très bientôt. Et j'en profite, puisque ça va être les vacances scolaires, de prendre une semaine avec les enfants. Mais généralement, je prends quasiment toutes les vacances scolaires. Donc, il y a une semaine par-ci, une semaine par-là. Et il y a un mois l'été, vraiment...
Il faut expliquer quand même à nos auditeurs que les émissions, les 12 coups de midi, vous les enregistrez. Donc, vous n'êtes pas tous les jours à la télé à faire l'émission. C'est enregistré.
Non, on fait la vérité, on fait 5 émissions par jour. Là, je viens d'en terminer 60. Et en même temps, je me
donc
sens...
Vous n'avez plus rien à faire, quoi, maintenant.
Voilà, j'ai rien à faire, c'est ça. Merci beaucoup, Valérie. À part ce soir, sur TF1, voilà, Léo Mattei.
Mais alors, moi, j'ai un gros souci. Je comptais emmener ma fiancée au restaurant. Ouais. Je vais quand même pas faire un plateau repas pour la Saint-Valentin.
Elle s'appelle comment Comment elle s'appelle? Parce que non, ça va l'intéresser, parce que en même temps, c'est un message d'amour que de regarder Léo Mattei ce soir avec toute la famille et de se dire, tiens, les enfants, regardez, on va partager ensemble.
Oui. Alors, il y a Mickaël qui dit
Il n'est pas convaincu.
Jean-Luc, je vous adore. Est-ce que vous pouvez me faire une imitation?
Mais quel genre d'imitation? Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Patrick Poivre d'Arvor. Je suis ravi d'être à l'antenne de Sud Radio avec la délicieuse Valérie Expert.
Ça ressemble un peu à Colombo sur la fin.
Non, ben non, Colombo, c'est toujours... Ma femme me dit toujours. C'est plutôt un peu comme ça.
Parmi tous les guests, avec qui vous avez eu beaucoup de plaisir, ou ça vous a touché qu'il accepte de venir?
Ce soir, Michel Sarran, grand chef cuisinier, puisque ça se passe dans une école hôtelière. Cyril Eldin, ça m'a touché parce que c'est une casse, c'est une intelligentsia, et puis il est comédien extraordinaire, et c'est un homme de Canal+. Bruno Volkovitch, ça faisait des années qu'il n'était pas venu sur TF1, et vu qu'il est père de famille, il a lu le scénar, et il a été impliqué, et s'est dit, s'il y a aussi une pierre à l'édifice dont nous parlions avec vous, Eric, à apporter pour faire passer un message pour nos enfants. Véronique Jeannot, ça faisait une éternité qu'elle n'avait pas été sur TF1. Et évidemment, elle fait le rôle d'une psy, mais elle le fait à merveille. Donc, lorsqu'ils ont lu tous ces guests-là, ils ont lu la qualité des scénars qu'on leur proposait, et ben j'étais super touché. Ils ont tous dit oui. Et pour moi, donc, il y en a pas plus un qu'un autre. En revanche, il y a Rebecca Hampton ce soir qui est merveilleuse,
incroyable. Deuxième partie
sur la danse.
Spécial.
Plus que spécial. Oui. Très bon.
Deuxième, donc ça, vous serez rentré du restaurant.
Ça dépend, vous savez pas ce que je vais faire après.
Et vous non plus, je pense.
Troisième animateur préféré des Français, ça fait chaud au cœur, et vous êtes rentré dans la liste du JDD également, des personnalités préférées des Français.
Ouais, la petite fierté, c'est que je suis le premier animateur de TF1 surtout. Ouais, ouais. Donc le service public, c'est normal.
C'est vrai qu'il y a Nagui, Michel Simès
qui est le docteur de toute la France entière, donc là on peut pas lutter, il va s'occuper de nos petits bobos. Et puis Nagui qui fait, je sais plus combien, 4 quotidiens maintenant par jour, 3 à la télé, donc 2 le soir, midi, plus une sur France Inter.
Vous pensez qu'il y a une surreprésentation du service public qui n'est pas tout à fait justifiée par rapport à la puissance de TF1 et
je ne pense rien, audiences. Monsieur, je suis animateur télé, vous savez, et je me sens très très bien et très heureux de mon sort, surtout ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Non, bien au contraire, je suis très très heureux, et je pense qu'il y a surtout de la place pour tout le monde à partir du moment où on développe une énergie et qu'on aime ce que l'on fait avant tout.
Et moi, j'étais surpris du nom du réalisateur, qui est Serge
Calfon. Oui,
c'est le réalisateur d'un tas d'émissions. C'est le fameux Magnéto Serge. Ça vous a pas fait peur que ce soit Serge? Vous le connaissiez sur les émissions?
Bien évidemment. Alors, c'est moi qui lui ai.
Il a eu très peur, c'est la question. Idiote par excellence, si, j'ai eu très peur, mais bon, j'avais pas le choix.
Non, mais c'est intéressant ce que.
Non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant de voir. Votre question est très bonne, Gilles. Bravo.
Non, Gilles, c'est très intéressant parce que justement, forcément, il n'avait jamais fait de fiction.
Et, ben, voilà.
Et on a commencé ensemble avec Serge. Je montais de Toulouse et j'étais chauffeur de salle. Et lui, il était assistant réalisateur de Gérard Pulicino. Moi, j'étais voix off derrière. On a commencé ensemble. Et si maintenant, où on est un petit peu plus grand, on a grandi, on a passé 50 ans, tout ça, on ne peut pas faire plaisir à des amis, des vrais, et de se dire, toi aussi, on peut te donner chance, à part de faire des émissions de variété, de divertissement, Magnéto Serge, Thierry Ardisson, Laurent Ruquier, etc. Et même moi, il réalise des émissions sur les 12 coups de midi. On est là pour de la transmission et puis pour partager avec des gens que l'on aime. Tu vois, on va pas s'embêter quand même.
Ouais. Bah c'est ça, un vrai pote.
Ouais.
Et ben voilà.
Vous avez plus de 50 ans ?
Oui. Alors que vous, non, mais ça me fait plaisir de dîner avec vous ce soir.
Mickaël, encore une question, celui qui vous dit qu'il vous adore. Il dit, avec quel grand maître de midi vous entendez-vous le mieux ?
Le mieux, c'est celui qui a arrêté à un moment donné, qui s'appelle Xavier. Il avait 23 ans à l'époque. Et il a dit, Jean-Luc, écoutez bien ce que je vous dis. J'arrête l'émission parce que j'ai trouvé un boulot. Donc, c'est-à-dire que le gars, je ne sais plus combien il avait gagné, 200 000 ou 300 000 euros, et dit non, j'arrête parce que j'ai trouvé un boulot. C'est-à-dire qu'il était en fin d'études. Vous vous imaginez, c'est le seul, et pourtant j'ai présenté quand même beaucoup d'émissions, qui a dit non, j'arrête parce que j'ai trouvé un travail. Vous vous imaginez l'élégance de l'homme qui aurait pu performer et être encore aujourd'hui, parce que c'était une mémoire éponge. Un jeune de 23 ans, il était totalement incroyable. Donc, c'est Xavier, que j'ai surnommé Xavier de Savoie, qui m'a le plus touché pour répondre.
Et Christian Quesada, qui est le recordman absolu des gains, et qui a co-présenté avec vous, je crois, qui a participé à une émission. Vous êtes en contact, vous avez des nouveaux projets?
Oui. Alors, c'est pas une question de projet, c'est-à-dire que je l'ai mis dans un rôle de professeur, donc il n'a pas co-présenté, mais c'était le professeur, je lui ai mis
une blouse. Il était dans l'émission.
Voilà, c'était comme un chroniqueur, c'était assez intéressant. Mais c'est vrai que je pense sincèrement que c'est le plus fort de tous les candidats, mais tout jeu réuni, parce que il a une mémoire éponge complètement folle. Et après, on adore cet homme, on adore on adore le détester et on déteste l'aimer. Ouais. Donc, il a des qualités.
Il va revenir, vous croyez ?
Il va revenir où ?
Bah, comme dans
des primes.
Dans des primes ou dans des...
Ah, dans des primes, il est invité de temps en temps, il vient faire coucou, il n'y a aucun problème. Ma porte, lui, est toujours ouverte.
Toujours ouverte. Très bien.
Je fais la liaison.
Non, mais c'est vrai, c'est une jolie liaison. Ouais. Toujours ouverte.
Vous avez vu comment elle est ? Vous avez vu, c'est dur.
Je le taquine.
Moi, je l'adore et je voudrais travailler avec elle.
La place est déjà prise.
Non, mais j'aimerais bien faire un binôme avec Valérie parce que je serais la mouche
binôme,
du coche.
Un binôme pour la Saint-Valentin.
Ouais, c'est ça. Avec un accent circonflexe entre nous.
Absolument. Écoutez, merci d'être venu ce matin. Donc ce soir, Léo Mattei, on vous retrouve avec plaisir. Puis un rôle qui avec le retour de votre fille, donne plus d'épaisseur au personnage. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une dimension humaine différente. En tout cas, moi, j'ai vu le premier épisode.
À la fois homme et policier.
Juste pour faire court, elle a été séquestrée et enlevée pendant 8 ans. Donc, il se retrouve avec une fille qu'il ne connaît
qu'il
plus.
Découvre, c'est ça.
Et qui est devenue une femme.
Ouais.
Et cette fille qui dit,
dans
mais c'est pas mon
père.
C'est pas mon père. Et en même temps, je suis ton père. Donc, c'est des situations, une fois de plus, qui peuvent tous nous arriver.
On dit parent 1 maintenant. Parent 1 ou parent 2, vous savez ça ? Vous n'avez pas suivi l'actualité, je vais vous expliquer.
On va en parler à 11h.
Allez, bonne Saint-Valentin. Merci Jean-Luc Reichmann d'avoir été avec nous. Mais nous aussi, on vous aime. 21h ce soir sur TF1, début de la 6e saison de Léo Mattei. Merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio entre 10h et midi, 10h-11h, les médias, avec aujourd'hui pour parler d'amour,
de la Saint-Valentin,
on a Estelle Dessin. Bonjour, vous êtes psychologue, psychothérapeute, vous êtes la psychologue de l'émission Mariée au premier regard.
La petite nouvelle.
La petite nouvelle, absolument. Et on a en ligne avec nous Tiffany, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été candidate lors de la première émission de Mariée au premier regard et vous avez rencontré Justine et vous êtes ensemble et amoureux.
On entend le bébé derrière.
Avec un bébé.
Avec Romy qui est avec moi.
Voilà. Racontez-nous peut-être, recommencer avec vous, pourquoi vous aviez participé à cette émission ?
À la base, moi, on m'avait contactée et puis dans la première saison, on n'avait aucune idée du mariage, on n'avait aucune idée de tout ce qui allait se passer par la suite, en fait.
Ça commençait juste avec est-ce que vous voulez faire des tests et on voit si on vous trouve quelqu'un de compatible. Mm. Donc du coup, moi, je me suis dit bon bah allez, pourquoi pas. J'arrivais à rencontrer personne qui me correspondait vraiment. Et c'est par la suite qu'est arrivé le mariage et tout. Mais à la base, c'était vraiment une petite expérience comme ça, passer des tests et puis on verra bien quoi.
C'est pas rien quand même, Rémi.
Bah oui, c'est pas rien, mais alors en fait, le truc, c'est que dans les compatibilités qui avaient été trouvées, vous étiez plutôt compatible avec Thomas, oui. Et puis Justin, il était compatible avec Valentine, et puis à l'arrivée, aucun des deux, ça a marché. Comment ça se fait que vous êtes retrouvés ensemble?
En fait, on s'est contacté après le tournage, après l'émission, parce qu'on avait vécu la même expérience. En fait, c'était plus histoire de partager un peu le truc de fou qu'on venait de vivre, mais à la base, pas du tout dans l'idée de se mettre ensemble, quoi.
Ouais.
Et donc, vous avez divorcé ?
Eh ben oui, j'ai divorcé.
Vous avez divorcé et puis vous avez, malgré tout, malgré cela, rencontré l'amour grâce à l'émission.
Exactement. Alors,
mais ça vous fait pas bizarre de se dire, je me retrouve à la mairie avec un inconnu, je l'embrasse et je suis mariée? Quand on vous a dit ça, vous n'avez pas eu envie de fuir?
Bah, en fait, au début, quand on nous a annoncé qu'il y aurait un mariage, moi, j'ai éclaté de rire, en fait. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, ils pourront jamais marier des gens qui se connaissent pas. Enfin, voilà, j'étais plus un peu dans le déni. Et puis, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je vais jusqu'au bout, je termine les tests. Il y a une chance sur 3 milliards pour qu'ils me trouvent quelqu'un. Donc, voilà, moi, quand je commence quelque chose, j'aime bien faire les choses à fond. Donc, je me suis dit, bon, bah, on va, et puis on verra où ça me mène, quoi. Ouais. Et puis après, bah, on vous dit, on a trouvé l'homme de votre vie. Si vous voulez le voir, faut se marier. Bon, bah, ok, on y va, hein.
Ouais. Estelle Dessin, est-ce que ça peut marcher comme ça, vraiment, l'amour?
Bah, absolument, la preuve, Tiffany.
Bah oui, mais la preuve que non. C'est-à-dire que celui qui lui avait été désigné.
Oui, ce que Tiffany dit pas, c'est qu'elle avait un très fort taux de compatibilité aussi avec Justin.
82% de compatibilité. Donc, ça fontonnait.
Et puis, oui, il y avait 80%. Et Justin, mais alors pourquoi vous ne les avez pas mis tout de suite? Bah
parce qu'il y avait plus
Thomas,
pour
Thomas
avait plus de compatibilité avec elle.
Et puis, vous ne savez pas ce qui va se passer pour cette saison. Ouais. Donc, je vous encourage
À regarder.
Il y a un vrai couple, apparemment.
Quand on est psychologue, pourquoi est-ce qu'on accepte de participer à ce type d'émission? C'est particulier, c'est contesté. Il y a eu des polémiques autour de l'émission sur le fait de faire rencontrer des gens, le mariage. On dit que c'est grave, c'est important, c'est une institution. Pourquoi avez-vous accepté de faire ça?
Alors, pour plusieurs choses. Tout d'abord, en psychologie, il y a toujours beaucoup de polémiques.
Oui.
Et c'est très bien parce que ça fait partie de notre métier. On doit toujours se remettre en question. Et c'est d'ailleurs un des principes déontologiques qui est propre à mon métier. Quand on m'a proposé l'émission, je vous cache pas que j'étais un peu dubitative au départ, mais en même temps, la question de la compatibilité amoureuse, c'est une question qui intéresse la psychologie expérimentale depuis hyper longtemps. Et puis là, je me suis dit, en fait, ça peut être l'occasion de participer à une expérience avec un panel que, dans la réalité, des expérimentalistes auraient eu énormément de mal à réunir. Donc là, évidemment, j'ai pas hésité.
D'accord.
Mais est-ce que vous trouvez que c'est pas nier ce qui est en fait... le véritable amour, c'est pas forcément une façon d'être compatible, c'est le cœur qui bat, c'est des émotions, des envies de partage, et ça c'est peut-être pas, on peut pas le comptabiliser quand
Absolument.
Même.
Absolument, alors je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pour ça que l'émission ne s'appelle pas l'amour au premier regard, mais marié au premier regard.
Voilà, en général on se marie, mais on se marie par amour en principe.
Absolument. Là, c'est pas le principe. On a sélectionné des gens. Enfin, ce sont des jeunes gens qui avaient envie de trouver l'amour, de construire un couple. Mm. Et ils ont tous en commun d'avoir été bloqués dans des schémas de répétition avec des échecs, une incapacité soit à rencontrer, soit à maintenir le lien. Donc, ils se sont remis à nous pour qu'on les aide. On les a toujours briefés, pour le coup, sur le fait que nous, on peut établir des compatibilités, mais que la vraie expérience, elle commence J2. Le mariage n'est pas une finalité, mais bien au contraire, un signe d'engagement vis-à-vis de soi-même, via le contrat vis-à-vis de l'autre, mais que c'est J2 que ça démarre. Et qu'il faut faire des efforts. Et là, la psychologie a ses limites aussi, vous voyez.
Mais en fait, si on regarde les deux saisons déjà diffusées, en tout cas, en fait, il n'y a aucun couple qui est duré, puisque même Tiffany et Justin, c'est comme on l'expliquait, plutôt un peu par hasard, à la fin, après l'échec des premières mises en relation. Donc, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est simplement un procédé pour faire une émission de télé-réalité?
Alors, c'est pas tout à fait juste parce que certains couples ont duré plus que d'autres. Après, c'est comme là pour le coup.
Aucun qui soit encore ensemble aujourd'hui.
Oui, mais c'est comme dans la vraie vie. J'ai envie de vous dire, moi j'ai plein d'exemples dans mon cabinet de couples qui se sont mariés puis qui divorçaient 3 mois mois après. Il appartient aux personnes d'être responsables de leurs désirs, de leurs démarches et de construire le couple. C'est pas tout.
Il y a une étude scientifique au départ, on dit voilà, il y a un taux de comptabilité, puis à l'arrivée, quand on regarde, ben, il n'y en a aucun qui soit encore ensemble.
Alors le moment où l'émission est diffusée, le moment où les mariages ont lieu, il y a quand même de nombreux mois entre les deux. La plupart des couples ont tenu. Certains pas du tout, mais il y en a quand même pas mal qui ont tenu plusieurs mois. Ouais. On ne peut pas se substituer, on ne peut pas être dans la chambre à coucher et tout le temps assis à table.
Comment on l'établit, ce taux de compatibilité? Les critères, c'est quoi?
Alors, je ne peux pas donner le nom des tests, mais il y a un certain nombre de tests. On évalue des variables qui sont psychosociologiques, sexuelles, plus d'autres variables qu'on prend en compte, comme la géographie, notamment.
Et vous êtes mariée?
Non, je ne suis pas mariée.
C'est dingue, hein, c'est souvent ça. C'est souvent le cordonnier qui donne des conseils. Vous n'êtes pas mariée, donc vous ne savez pas ce que c'est le mariage ou...
Mais je sais ce que c'est la vie maritale, en tout cas.
D'accord.
Est-ce que vous participeriez, vous, à une émission comme celle-là?
Je ne pense pas.
Non, vraiment. Est-ce qu'il y a beaucoup de candidatures chaque année qui sont reçues par M6?
Il y a beaucoup de candidatures, et ce qui est intéressant, c'est qu'on identifie au maximum ceux qui sont le plus motivés pour les bonnes raisons, à savoir s'en remettre à nous pour sortir de leurs difficultés et enrayer le schéma de répétition dans lequel ils sont.
Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de tentations.
On a Estelle toujours en ligne. Tiffany, pardon. Estelle est avec nous. Oui, vous êtes là. Vous regardez l'émission?
Oh bah bien sûr, je suis la première devant ma télé avec Justin, on est au taquet.
Et vous y croyez? vous faites des paris sur ceux pour qui ça va marcher ou pas? Vous pensez que là, il y en a pour qui ça va marcher?
Oh bah oui, on s'attache déjà. Après moi, j'ai connaissance que des deux couples pour l'instant qu'on a vus, puisque j'ai pas eu la chance de voir les épisodes avant, mais je pense que comme n'importe qui, on s'attache et puis on a envie d'y croire,
Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché avec le premier, en fait? Est-ce que vous avez ressenti quand même avec Thomas une partie de compatibilité ou pas du tout?
Bah en fait, ça a été tellement rapide. Je pense sincèrement qu'on avait sûrement des points sur lesquels on était compatibles. Après, pour le coup, je pense que prise de conscience, ou je sais pas, juste après, un gros coup de flip. Et du coup, nous, ça s'est terminé très très rapidement. Donc après, j'ai même pas eu le temps de voir si on était compatibles ou pas, quoi.
Ouais. Très bien. Ouais, écoutez, en tout cas, vous êtes compatible avec Justin et le bébé est là. Et le bébé est là. Donc, marié au premier regard. Donc, ce soir. C'est le lundi soir. On a voulu en parler aujourd'hui parce que c'était la Saint-Valentin. Donc, le lundi soir sur M6.
Ça a bien marché, hein, le
premier. Oui, ça a bien marché.
C'est très mignon.
C'est assez fascinant hein, quand on regarde.
Ah, mais c'est très intéressant.
Alors, ils ont tous la barbe cette année, il y a une raison, madame?
Oui, c'est la mode dans le sud-ouest et on a tourné dans le sud-ouest. Il n'y a pas d'autre raison à ça. Mais c'est très intéressant, je pense que ça marche bien parce que c'est très identificatoire. Je pense que beaucoup de jeunes de cette génération, en tout cas les jeunes qui viennent me consulter en privé, se questionnent sur la possibilité, leur capacité à être en couple et à maintenir le couple.
Merci à vous. On va passer aux 30 secondes pour convaincre.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Alors moi, ce soir, je n'irai pas au restaurant. Je vais me mettre sur mon canapé avec des chips pour regarder ce documentaire sur France 5. Que se cache-t-il derrière le business des chips? Alors, c'est assez original. J'avoue que je n'ai jamais entendu parler de ce type d'enquête. Mais c'est vrai qu'il y a toutes sortes de chips, au poivre, au vinaigre, au poulet. Enfin, bref, à chaque fois, de nouvelles recettes. Et on a téléphoné à Frédéric Merget, qui est la réalisatrice, pour nous convaincre de regarder ce documentaire assez incroyable.
Ça sera dimanche. Hein,
ce sera dimanche.
Dans les enquêtes, les docs du dimanche sur France 5.
Alors, je me suis intéressée aux astuces des fabricants pour nous faire craquer, les ingrédients qu'ils utilisent, bien sûr, mais aussi leur technique marketing. Et puis, j'ai voulu faire la part du vrai et du faux sur les chips. Par exemple, est-ce que les chips de légumes ou les snacks allégés sont-ils vraiment meilleurs pour notre santé? Ou encore, est-ce que des additifs comme le glutamate monosodique peut causer certaines maladies? On se rend compte à l'issue de l'enquête que c'est pas si dangereux que ça, contrairement à l'acrylamide qui est moins connue mais classée comme cancérigène. Donc, à l'issue du reportage, vous comprendrez un peu mieux, j'espère, comment on peut céder à notre envie de chips sans trop faire de mal.
Et ben voilà, ce sera donc dimanche à 21h. Alors ce soir, Léo Mattei, évidemment, le retour de Léo Mattei, Brigade des mineurs, sur France 2, envoyé spécial, avec un sujet...
Sur une maternité qui ferme.
Malavita, c'est sur France 3.
C'est un
3.
Film avec De Niro, Robert De Niro,
absolument.
Et Michel Pfeiffer.
Recherche appartement ou maison sur M6. Il y a Viking sur Canal+, si vous êtes abonné. Pardon, Le pouvoir des prêtresses égyptiennes sur France 5. Et puis voilà.
TF1, qui va en premier. Qu'est-ce que vous voulez?
Je pense que TF1 va l'emporter en Paris.
Devant. Et puis, entre envoyé spécial ou recherche appartement ou maison, je pense que...
Moi, je dis Malavita en deux. Hein.
Malavita en deux.
Et envoyé spécial. Allez, moi, on fera les comptes demain. Allez, merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour commenter l'actualité, parler du parent 1, parent 2. Vous savez que c'est ce qui va désormais figurer sur les formulaires officiels à la place de père ou mère. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. À tout de suite.